parce que bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
Ça n'a rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance,
on bu de l'alcool et fumer du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on n'a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
Un fasciste, la gangrène,
l'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
De Radio Canu pour ce Canu Info du jeudi 4 novembre 2021. Il faut savoir que nos camarades mandatés à plein de choses nous ont fait un bel emballage avec écrit On Air. Maintenant, au lieu d'avoir une truc qui pendouille, maintenant c'est classe, vous verrez à Radio Canu, on fait des choses magnifiques. En tant que bénévole volontaire de cette chouette radio associative. Alors pour ce soir, pour ce Canu Info avec Laurent au micro rouge, vas-tu bien? Oui, d'accord, ok. C'est un. Nous allons parler évidemment d'extrême droite ce soir. Nous parlerons aussi d'énergie et d'environnement. Nous parlerons par exemple de Greenpeace, du train, des avions, de Macron, l'escroc, de Negawatt et puis de l'Humanité, le journal qui existe encore. Nous parlerons de chasse, de cinéma et puis de la RATP. Voilà ce soir pour ce petit déroulé que nous allons tenir jusqu'à 20h.
Oui, alors forcément on va ouvrir un petit peu sur l'extrême droite puisque se déroule, alors, on ne sait pas où ça en est, on n'a pas eu d'écho depuis une heure, voire un peu plus, du procès des 7 militants antifascistes lyonnais qui était prévu en début d'après-midi. Alors, on rappelle, ils sont jugés pour violence volontaire commise en réunion sans interruption volontaire de travail. Ça c'est le terme officiel. En fait, ils s'en sont pris lors de la manif anti-pass du 28 août, cette manif avait été par provocation démarrée place de la Croix-Rousse, hein, on rappelle, une manif avec beaucoup de militants d'extrême droite dedans, d'où la provocation de la faire démarrer place de la Croix-Rousse. Et donc là, il y avait eu une attaque d'un groupe d'extrême droite qu'on connaît bien, hein, qui s'appelle Civitas, groupe catholique intégriste, anti-avortement, anti-droit des femmes, enfin voilà, une horreur absolue. Donc ils avaient, les militants antifas en étaient pris à ce groupe catholique et ça avait dégénéré en attaque et en bataille. Donc ils ont été déférés au parquet il y a à peu près un mois. À l'issue d'une enquête, ils auraient été filmés par une caméra de vidéosurveillance de la ville de Lyon, mais vraisemblablement au procès, ils sont pas sûrs de ce que contenait cette vidéo. En tout cas, et c'est une personne seulement qui est concernée par ce procès, qui est victime. Cette personne a refusé de déposer plainte, malgré pas mal de pression. C'est donc le parquet qui a mené tout seul, qui a décidé de poursuivre les militants lyonnais antifascistes. Le parquet, on rappelle, c'est l'État. Donc c'est pas une action au civil traditionnel avec quelqu'un qui se fait agresser parce que il est membre d'un groupe intégriste catholique et qui dépose plainte. C'est parce que l'État décide de poursuivre le mouvement antifa. C'est donc bien, et quand ça se passe, c'est une action qui est toujours très politique, hein. Donc c'est l'État qui décide, le gouvernement quelque part, hein, puisque la justice là, dans ce cas-là, le procureur, c'est le bras armé de l'État. Donc on en est là. Ils sont passés dans une procédure dite de comparution immédiate à délai différé, ce qui leur a permis de préparer leur défense. On notera donc du coup ce qui est évident pendant le procès, ce qui avait déjà été mis en évidence avant, la partialité de la justice et de la police, qui ont décidé d'enquêter, alors que c'était pas obligatoire puisqu'il n'y avait pas de dépôt de plainte, sur ce qui s'est passé donc le 28 août dernier, mais qui n'ont jamais, jamais enquêté sur les trois attaques qu'a subi Radio Canu, par exemple. Nous n'avons jamais eu de retour, pourtant trois attaques. Sur l'attaque contre le bar Place Colbert, ça a été abandonné, malgré plusieurs dépôts de plainte pour le coup là. Sur le bar de la Croix-Rousse, pareil. Contre la Plume Noire, c'est pareil. Il y a un choix de la justice lyonnaise et peut-être nationale, en tout cas lyonnaise, de ne pas poursuivre les mouvements d'extrême droite, mais de poursuivre les antifascistes et les mouvements donc d'extrême gauche. C'est un choix politique assumé, qui est visible, ultra visible. Je veux dire, on peut témoigner en tant que Radio Canu, qui avons subi trois attaques de l'extrême droite, qui a pas eu d'enquête, alors qu'ils se servent des caméras quand ça les arrange, mais quand ça les arrange pas, les images, ils les sortent pas. Donc c'est un vrai procès politique. On en est bien là. Et on espère que ça va bien se passer.
Oui, on rappelle, lutter contre le fascisme, c'est pas un crime, ça ne le sera jamais et ça ne l'a jamais été. Pourtant, évidemment, les États et les gouvernements ont toujours une tendance à vouloir nous taper dessus et en voulant faire une différence entre des résistants et d'autres antifascistes, comme s'il y avait des résistants historiques qu'on pouvait saluer, honorer parfois dans la mémoire, et puis les antifascistes du quotidien de ce 21e siècle, ouais, particulièrement, mais qu'on mettrait à l'écart. Ouais.
Dans l'histoire de la France, les résistants au fascisme, ils sont honorés après, puisque pendant leurs actions, ils sont poursuivis par l'État, mais par la police et par la justice en permanence. C'est après que, un travail historique, qu'on réhabilite les résistants au fascisme.
Alors aussi, juste pour redire à nos auditeurs et auditrices qui n'habiteraient pas Lyon et qui auraient peut-être mal à comprendre un petit peu la Croix-Rousse, pour comprendre pourquoi c'était une provocation, c'est parce que beaucoup des locaux qui ont été attaqués se trouvent sur les pentes de la Croix-Rousse précisément, c'est-à-dire on pourrait parler du local du Parti communiste, de la Plume Noire, hein, librairie anarchiste qui a été la Fédération anarchiste, la CGA et maintenant l'UCL, la CNT, syndicat, évidemment Radio Canu. La différence peut-être pour Radio Canu, c'est que nous, on n'est pas une organisation politique ou syndicaliste comme les autres sur le quartier, et qu'on n'avait évidemment pas la même démarche et la même approche dans le collectif. Mais en tout cas, l'UCL a largement participé à vouloir faire savoir et à vouloir avoir un rendu judiciaire, comme en tout, effectivement le bar Place Colbert à l'époque, hein, puisque ce n'est plus les tenanciers et tenancières. On voudrait pas poser des problèmes à ceux qui ouais, aujourd'hui tiennent le bar, que nous saluons. Voilà, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui effectivement finalement une facilité à oublier ce que peuvent faire ces fascistes et ces racistes qui, encore il n'y a pas longtemps, hein, se baladent impunément
à 50, comme
à 50
ça, agressent des
groupe,
gens,
agressent ouais, des gens sur les pentes de la Croix-Rousse, mais pas seulement, hein, il faut le rappeler que ici effectivement ils aiment bien pavaner parce que il y a une réaction, parce qu'il y a des tags où il y a écrit zone antifasciste et qui ça joue la rébellion à vouloir entrer sur un territoire qui leur serait interdit. Rappelons qu'aucun territoire n'est interdit, c'est juste qu'on ne veut pas d'eux parce que ce sont des racistes et des fascistes et qu'on ne veut pas de leur violence dans notre quartier. Mais ailleurs, il y a aussi des gens, le cinquième dans lequel ces gens sont bien installés avec leur local, il y a aussi des commerçants et des habitants et des habitantes qui n'en peuvent plus, qui ne veulent plus de ces gens. Donc aujourd'hui, on a une justice, comme tu disais, qui est partiale, une justice d'exception. Il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, il se tenait un autre procès au tribunal de Bobigny. C'est ce policier accompagné d'autres qui, en avril, avait malmené, insulté et agressé un homme et l'avait traité de bico. Aujourd'hui, au tribunal, ce policier a dit que bah quoi, bico, c'est dans le langage courant, c'est normal. Donc on a un racisme quotidien pour tous et pour toutes, et dans beaucoup de conditions, on a un sexisme aussi de ces groupes qui est assez important, une homophobie extrêmement importante. Donc c'est un combat qui est large, important, et qui à Lyon est porté par plein de gens, et dans d'autres villes aussi, et on sent qu'il y a quand même un besoin qu'on ait des élus, hein, même quand on vote pas pour eux et pour elles, qui se saisissent un peu plus de toutes ces problématiques qui sont notre quotidien en vrai.
Ouais, ce qui n'a pour l'instant pas vraiment été le cas de la mairie actuelle, et alors encore moins de celle d'avant, hein, qui avait une plus que de la complaisance pour les mouvements néo-nazis.
Non mais quand on voit que Soral, il en est à sa 21e condamnation, 21 condamnations, là il a été condamné pour des propos antisémites graves, 21 condamnations. Comment est-ce que on peut en arriver là? Enfin, je veux dire, vous allez me dire, bah, tu vois Delphine, il est condamné. Ah bah ouais, mais n'empêche qu'il en est quand même à 21 condamnations. et continue sa petite vie.
Comme quoi, ça fonctionne pas très bien, ces condamnations. On poursuit. Bah, j'ai une nouvelle qui n'a aucun intérêt, si ce n'est que ça m'a fait plaisir. Tu vois, des fois, il faut faire des petites nouvelles qui nous font plaisir. C'est Brigitte Bardot qui a été reconnue coupable, comme là, donc, tu viens de citer une autre personne d'extrême droite qui est Soral. Bah, elle aussi, elle est reconnue coupable d'injures raciales par la justice. On rappelle qu'elle avait, donc, elle a été condamnée à 20 000 euros d'amende. Ça avait été demandé 25 000, elle a eu un peu moins. En fait, ça date de mars de l'année dernière, il y a deux ans, mars 2019. Elle avait lancé une salve de propos insultants sur les habitants et les habitantes de La Réunion. Un courrier qu'elle avait envoyé. Alors, au début, elle s'alarmait du traitement des animaux, hein, comme d'habitude, et elle en venait à insulter tout le monde. Alors c'était impressionnant, hein. Je cite quelques termes, elle disait « des autochtones ayant gardé leur gène de sauvage ». Donc ça c'était les Réunionnais, ils ont des gènes de sauvages. Voilà. Ou encore, qu'est-ce qu'elle avait dit ? Population dégénérée encore imprégnée des traditions barbares qui sont leur souche. C'est pas mal aussi, hein. Et cerise sur le gâteau, il y en a plein d'autres, mais je n'en cite que trois. Réminiscence de cannibalisme des siècles passés. Alors je suis même pas sûr que les Réunionnais aient eu un jour beaucoup de cannibales sur leur île, mais voilà, c'était affreux. Et comme le dit Maître Fabrice Sauber, l'avocat de la Ligue des droits de l'homme, dans le contexte actuel, c'est intéressant de voir que les paroles de haine et d'exclusion sont sanctionnées. Et il a raison, c'est symbolique, 20 000 euros, elle n'en mourra pas, mais ça fait plaisir. Il faut savoir que l'association, la fondation Bardot, qui avait envoyé les courriers, qui obéit à sa chef d'extrême droite, elle a été aussi condamnée à 4 000 euros d'amende sur les 5 000 qui avaient été réclamés. Donc voilà, c'est une petite nouvelle qui n'a aucun intérêt, mais qui fait plaisir.
Oui. Qui voulait parler peut-être de Serge Chalabrois.
Alors du coup on est dans les fachos et
l'extrême.
Alors on va parler de Serge Chalandon.
Bien évidemment.
Alors, c'est tout. C'est plutôt quelqu'un de qu'on classerait largement à gauche, hein, voire plus.
Ouais, alors non seulement il est pas à gauche, mais en plus il est antiraciste et antifasciste.
Voilà. Oui, c'est quelqu'un de très intéressant, journaliste qui a eu le prix Albert Londres, je crois, enfin qui a eu pas mal de prix, hein, quand il a eu une grosse carrière de journalisme. Je crois que c'était à Libé. Aujourd'hui il est au canard enchaîné. Il sort des bouquins régulièrement. Il y a des petites merveilles, hein, notamment Mon traître, hein, qui traite
de ce qui
peut se passer avec l'IRA et avec l'Irlande du Nord occupée, on rappelle, toujours par l'Angleterre. Et là, il a sorti il y a peut-être deux mois, enfin à la rentrée, un livre qui s'appelle Enfant de salaud. C'est le deuxième livre qu'il sort. C'est un roman, mais c'est autour de sa vie à lui. Et c'est un roman sur l'extrême droite quelque part, puisque en fait, ça raconte l'histoire de son père. Notamment lorsque ça part un peu de ça, lorsque son grand-père lui dit un jour énervé, tu sais que ton père a été du mauvais côté de l'histoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, être du mauvais côté, ça veut dire qu'il a été plutôt avec justement l'extrême droite, c'est-à-dire Pétain et toute la bande. Et il va se poser des questions, il va poser des questions à son père. Son père le mène en bateau. Et toute l'histoire racontée dans le livre, c'est ça. C'est comment son père le mène en bateau. Lui, il va enquêter, il va récupérer les infos de son casier judiciaire, notamment, qui sont classés dans les affaires de l'histoire, hein, puisque il a été condamné en 45 pour avoir trahi la France, hein, son père, c'est-à-dire avoir été du côté de Pétain, de s'être engagé avec les nazis, etc. Et on a toute cette histoire très compliquée entre lui et son père. Et en parallèle, on a le procès Barbie. Parce qu'en fait, il replace tout ça. Alors, c'est un roman, c'est-à-dire qu'il part de faits réels. Donc, le procès Barbie qu'il a suivi à l'époque pour le journal pour lequel il travaillait. Et les infos sur son père qu'il a eu très tardivement. Il mélange les deux. Il fait assister son père au procès Barbie. C'est le côté romancé. Et il y a cette double histoire, la grande histoire, le procès Barbie, l'horreur absolue. Alors, il raconte, du coup, il remet des témoignages, des trucs où, quand tu lis le livre, t'as envie de vomir c'est horrible, c'est indéfendable. Et puis Barbie avec son air méprisant qui refuse d'aller au procès, refuse de te dire quoi que ce soit. Et puis c'est l'histoire avec son père traître, mais qui a changé d'uniforme 5 fois pendant la guerre, jusqu'à être dans les résistants à la fin pour faire croire que pour faire oublier voilà. Et il comprend pas finalement, même à la fin il y a quand même des doutes sur ce que voulait vraiment son père. A priori, on sent que son père était quand même vraiment du mauvais côté de l'histoire. Mais voilà. Et ça donne un roman assez incroyable sur cette petite histoire qui nous concerne tous. comment ont réagi nos parents, nos grands-parents pendant la guerre? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous, voilà, avec notre côté antifasciste, on dit, putain, j'espère que mon père ou mon grand-père, plutôt, du coup, était pas pétainiste, quoi. Et c'est ça dont il est question, c'est ce rapport à notre famille, à l'histoire, à ce qu'on en fait, ce qu'il est devenu. Lui, il est devenu quelqu'un d'intelligent, de journaliste, alors que il est d'une famille plutôt pauvre, d'une maman effacée, enfin, voilà. Et ça raconte tout ça, et c'est incroyablement fort, notamment parce qu'il y a le parallèle avec cette horreur qui était Klaus Barbie, donc le procès de 87 à Lyon. Ça se passe beaucoup à Lyon, hein, puisque ses parents sont lyonnais, ils habitent à Lyon. Donc voilà, c'est un très très beau livre. Il y en a qui pensaient qu'il aurait le prix Goncourt, mais on s'en fout en fait d'avoir un prix. Hein. C'est pas ça qui compte, c'est le livre qui compte, et ça s'appelle donc Enfant de salaud de Sorge Chalandon, journaliste au Canard Enchaîné.
Alors tu vas être d'accord avec moi qu'on peut être pauvre et intelligent. C'est juste
ils sont à la fois pauvres et pas intelligents.
Fait des raccourcis, mais effectivement ouais. On peut être pauvre et intelligent.
Non, mais c'est vrai qu'ils sont pas intelligents d'ailleurs. Son père est très manipulateur, donc il est très intelligent hein, pour arriver à manipuler autant. Il a manipulé les flics, la justice, son fils, sa femme, etc. Donc c'est malheureusement, oui, c'est ça. C'était trop intelligent.
Alors on va poursuivre, on va commencer un petit peu à parler d'environnement. Tout à l'heure tu parlais très rapidement de cette vidéo à ce procès du jour à Lyon. La vidéo donc n'a pas pu être visionnée, hein, donc on est sur un problème
a priori, ce que j'ai compris,
de fond. Et c'est bien là aussi où on a une attaque précise. Attendez. Tout est basé sur cette vidéo et elle n'est pas visible. Et ben il s'est passé à peu près une chose un peu identique, c'est-à-dire que c'est un problème de fond qui a eu lieu au tribunal de Bobigny. C'est l'avocate de Greenpeace qui salue une victoire sur le fond. Alors il faut se souvenir, en mars dernier, 9 militants militantes de Greenpeace décident d'aller se faire sur l'aéroport de Roissy un avion d'Air France.
Pas de le repeindre en vert, en fait.
C'est exactement ce que j'allais dire. Alors, bon, soyons très honnêtes, ils n'ont pas eu le temps de faire grand-chose.
Ils ont fait un petit rectangle.
Un petit rectangle. Bon, déjà, c'était propre. Moi, je trouvais que c'était propre. Pas de coulure, rien.
Mais... un petit peu, quand même.
Allez, vas-y, vas-y. Leur reconnaître, quand même, qu'ils n'ont pas eu le temps de faire grand-chose.
Pour dénoncer le greenwashing.
Mais, en tout cas, donc, ils ont... voilà, c'était pour dénoncer le greenwashing, mais surtout aussi la multiplication des vols pour rien. En tout cas, tout ce travail à faire sur l'aviation, sur les vols commerciaux et puis sur l'agrandissement aussi des aéroports français. Donc, tout ça pour un petit carré vert. Enfin, en tout cas, donc, ils sont fait arrêter. Il y a eu une garde à vue. Et le tribunal correctionnel de Bobigny a invalidé les procès-verbaux de convocation devant la justice. Puisqu'il y avait une requête en nullité qui avait été amenée par l'avocate de Greenpeace, donc il n'y aura pas de renvoi devant la justice. Le tribunal de Bobigny a estimé que ce ne pouvait être valablement saisi. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand ces militants et militantes ont été mis en garde à vue, il y a eu une levée de garde à vue et ils ont été retenus au dépôt de Bobigny.
C'est qu'en fait... Ah oui, alors qu'ils n'auraient pas dû, quoi.
Voilà,
ils ont gardé de force. Allez, vas-y, on vous garde.
Ils sont restés tranquillous. Ouais. Ça n'a pas été justifié par le procureur. Ça n'a pas été présenté à un magistrat. Rien du tout. Ils sont restés là-bas dedans.
Coincés.
Donc, ce qui est intéressant, c'est donc que... Il n'y a pas juste la problématique de la criminalisation des militants et des militantes. Parce qu'effectivement, il et elle, être attaqués pour un saccage d'avion d'Air France.
Hein. Oui, ça reste illégal de repeindre un avion.
Illégal. Mais pour autant.
Mais pas pour dénoncer quelque chose de fort.
Est-ce que pour autant il faut violer les droits de ceux et de celles qui sont, à un moment, arrêtés, placés en garde à vue ? Et peut-être avec des suites. Et c'est bien ça toute l'histoire aujourd'hui qui s'est passée sur ce tribunal de Bobigny. Et c'est ce qui se passe à beaucoup de moments, en fait, et en particulier avec les militants et les militantes, quand ils se font arrêter et qu'il y a un procès qui se met en route. C'est qu'il y a un moment où on veut s'asseoir sur leurs droits. Et ben c'est pas normal. Et c'est ce que fait savoir l'avocate de Greenpeace. Et c'est là où elle déclare que c'est une victoire sur le fond. On peut ne pas faire n'importe quoi et aller trop vite. Voilà, peut-être que... surtout que les militants de Greenpeace, c'est des gens qui ont toujours fait savoir que quand ils font une action, ils et elles assume pleinement de le faire et que s'il doit y avoir une arrestation, il et elle vont l'assumer. Ça n'a jamais été dit autrement.
Oui, parce que le but, c'est de médiatiser les choses. Donc, ils sont dans cette démarche-là et effectivement, ça les sert beaucoup, la médiatisation.
Donc, avant que tu parles du train, je vais te donner peut-être un peu raison. Puisque Libération nous a concocté un petit rappel un petit peu de cette COP26 où se sont rendus tout un tas de chefs d'État. Et pour ce qu'on en sait, ce qu'on nous rapporte dans cet article, il y a 400 jets privés qui se sont posés là-bas.
Ben, il faut bien qu'ils y allent. Tu veux, ils n'allaient pas prendre le train.
Alors,
ils auraient pu.
Je vais finir par la personne qui a pris le train. Alors évidemment, vous allez me dire, mais il y en a, ils sont quand même un peu loin. Comment est-ce que tu veux que Joe Biden vienne en kayak à Glasgow?
En bateau, alors, il faut qu'il parte un mois avant. Quoi, c'est
effectivement,
compliqué.
Il a pris donc son super avion qui va bien vite. Mais en même temps, il y avait 3 autres avions avec lui.
Oui, bah forcément.
Donc ça en fait 4. Ouais. Et une vingtaine de voitures à Glasgow. Alors quand on sait qu'il était à Rome, hein, juste avant pour le G20, là, la soupe des puissants, il y avait 85 voitures à Rome, 20 à Glasgow, et le machin ultra sécurisé, qui même le pape il en veut, une comme ça, et qui évidemment est extrêmement énergivore, comme nous le rappelle Libération. On a Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui elle est une récidiviste, puisque... elle se trimballe toujours avec des jets privés. Alors toujours, c'est pas vrai. Puisque sur ses 34 voyages officiels à l'étranger, elle a utilisé 18 fois des jets privés. Ce qui paraît que les vols commerciaux, il n'y en a pas toujours et que c'est pas pratique.
Ouais, puis il faut se mélanger avec la plèbe, c'est chiant.
Voyons. Alors du côté de Ben Johnson, on se dit, c'est quand même...
Long. Il est à côté, lui.
Il est allé... alors il est rentré en jet privé parce que... enfin, il va rentrer en jet privé, pardon. Parce que quand même, c'est loin, hein, 640 km. Et puis qu'en train... c'est plus de 4 heures.
Il faut dire qu'ils ont bien abîmé les trains en Royaume-Uni. Ouais. Hein.
Alors que là, du coup, il a une contrainte de temps, apprend-on. Donc, voyons. Et puis qu'en fait, il a, lui, un avion qui est un mélange de carburant durable. Voyons. Et puis qu'en plus, les émissions seront compensées par des arbres plantés.
Voyons. Plante des arbres.
Je continue donc. Et puis alors, bon, ça a fait aussi parler de Jeff Bezos, que Libération appelle le souverain poncif. Ça m'a fait marrer. Donc lui, il est allé en jet privé. Mais comme se demande un peu Libération, de toute façon, on n'avait pas besoin de lui. Donc déjà, pourquoi il se déplace? Qu'il est chez lui, qu'il allume un truc en visioconférence et puis ça ira bien. Et puis en plus, il est allé faire des discours pour enfoncer les portes ouvertes, nous rappelle Libération, je suis assez d'accord.
On rappelle que lui, il développe le tourisme spatial qui est plus destructeur de l'environnement que n'importe quel autre mode de transport. Hein.
Alors Libération nous rapporte cette belle phrase que Jeff a dit. La nature fournit toute la nourriture que nous mangeons, l'eau que nous buvons et l'oxygène que nous respirons. Ah, la porte ouverte, comme elle est bien enfoncée. Et puis il y avait le prince Charles aussi, alors lui, il s'est baladé à Rome, hein, au G20. Et puis, du coup, il va aussi à la COP26 parce que, bon, il faut quand même se balader. Hein, quand on est un peu puissant, c'est toujours marrant. Alors, lui aussi, hein, il a un avion durable.
Il est fabriqué en bois.
Ah ouais, bah alors lui, il avait expliqué qu'en fait, il voulait transformer son Aston Martin avec du vin blanc anglais et du petit lait provenant de la fabrication du fromage.
Alors le vin blanc anglais, c'est parce, c'est parce que le vin blanc anglais, il est dégueulasse, donc il préfère le mettre en carburant, c'est ça.
Voilà. Alors, pour que, laisser donc tout ça pour dire que Greenpeace est sur un vrai combat, hein, puisque on a donc des gens qui vont nous parler d'environnement et de sauvegarde de la planète, en tout cas au niveau de l'environnement, et qui, pour beaucoup, se sont baladés en avion, ils sont des escrocs. Alors, il y a une personne qu'on n'adore pas forcément, mais qui a pris le train, c'est Madame Hidalgo. La seule.
Elle
pas la seule, mais en tout cas, elle l'a prise.
Elle est en campagne, donc il faut qu'elle montre des trucs.
Et peut-être qu'elle montre, mais elle montre. Voilà.
Alors, je reparlerai de la COP21 tout à l'heure. Tu voulais que je parle des trains, je vais parler des trains. En fait, c'est
COP26, COP26, c'était il y a 6 déjà, il y a 5.
Il existe un moyen simple en fait de réduire les émissions de CO2 au niveau de l'Europe, c'est de privilégier le train par rapport à l'avion. Hein. Alors ça, on le savait déjà. Moi aussi, je peux enfoncer des portes ouvertes, hein, c'est facile. Par contre, je peux vous donner des chiffres, et ça, c'est un peu plus intéressant. C'est une étude qui a été faite pour Greenpeace, tiens, tu t'en parlais. 31% des 150 routes aériennes les plus empruntées au sein de l'Union européenne et ont une alternative ferroviaire de moins de 6 heures. Donc ça veut dire qu'on pourrait déjà supprimer 31% des avions en Europe, en interne de l'Europe. Hein. Donc c'est pas mal. Hein. Quant aux lignes de plus de 6 heures, il y en a un quart, donc 25%, qui sont aussi desservis par des trains de nuit, donc qui mettent un peu moins de 12 heures. Donc on pourrait aussi supprimer tous ces vols, certes un peu plus longs, mais qu'on pourrait faire en train de nuit.
Ça reste tout à fait faisable.
Si c'est un train de nuit, c'est largement faisable.
Mais même sur une journée, je comprends quand tu pars en vacances, tu n'as pas envie forcément de parler de ça. Mais le problème, rappelons-le, c'est que pas tant le tourisme, hein, c'est plutôt les vols d'affaires, les vols commerciaux, les gens qui vont faire du business, qui aujourd'hui sont les plus importants, et c'est ceux-là qu'il faudra arriver à réduire. Ouais.
Donc là, l'étude, elle montre que voilà, y a un impact énorme à juste fermer toutes ces lignes qui ont des équivalentes train, donc soit moins de 6 heures, soit train de nuit à moins de 12 heures. Alors ça, c'est pour tout ce qui est au sein de l'Union européenne. Si on parle de l'Europe en termes de continent, ça va jusqu'à 250 lignes européennes qui ont un train en concurrence et qui peuvent être remplacées donc par du train. Donc ça, il y a des choses assez simples, hein. On en parle en France de, il y avait eu un projet, mais Macron a tout rejeté, mais de la part des citoyens qui avaient fait cette commission là pour parler des actions à mener pour sauver la planète quelque part, il y avait ça, supprimer toutes les lignes d'avion en France pour lesquelles il existe un train. Alors il y avait des critères aussi, donc voilà, il y a un potentiel qui existe, personne a le courage de basculer et de mettre en œuvre des choses. C'est le principe, on annonce mais on bascule pas. Alors je vais revenir sur...
En fait, sur les trains, il y aurait à développer des choses, hein. Il faut être tout
non,
à
mais
fait
là,
honnête.
Je ne parle que de lignes qui existent déjà, mais parce que sans développer quoi que ce soit.
Il y aurait déjà à développer, il y a des endroits, c'est vrai que si vous voulez faire un peu un effort, c'est extrêmement compliqué de prendre le train, ça coûte cher, il y a 3 trains, 4 trains différents, c'est très compliqué. Mais rien qu'en France, hein, on sait que les Paris-Marseille, les Lyon-Marseille, les Lyon-Paris, les Lyon-Bordeaux, il faut arrêter tout ça, quoi.
Ouais. Alors, je vais revenir sur autre chose, parce qu'on a beaucoup parlé, et c'est l'occasion de faire le point dans cette rubrique environnement du Canyon Info du jeudi, sur les différents rapports qui sont sortis. Alors, il y en a un qui a été ultra médiatisé, parce qu'il avantage tous ceux qui sont intéressés par le nucléaire. C'est le dernier rapport qui date du 25 octobre de RTE, donc Réseau de Transport de l'Électricité en France, qui a présenté 6 scénarios différents pour l'avenir énergétique du pays, avec comme objectif, hein, tout le monde est focalisé là-dessus, sortir des énergies fossiles. C'est à la fois intéressant et triste d'en être là, c'est-à-dire qu'il faut sortir de tout ce qui détruit l'environnement et pas simplement les dérèglements climatiques. Mais ça, c'est un autre problème. En tout cas, ils se focalisent là-dessus. Donc, ils expliquent comment en 30 ans, hein, puisque l'idée, c'est d'aller jusqu'en 2050, alors on est en 2021, pour sortir des énergies fossiles. En plus, ça tombe bien, on a une explosion des coûts, donc ils expliquent, en plus, il y a un intérêt économique. Alors, il y a un seul des scénarios qui est développé sur un mix énergétique à 100% issu des énergies renouvelables, donc solaire, éolien, biogaz et hydraulique, donc sans nucléaire. Les 5 autres scénarios sont basés et sont des scénarios de défense, en fait, du nucléaire. Alors, il y a plusieurs niveaux de défense. Il y a ceux qui disent, il y a des scénarios, on garde ce qui est en place actuellement, parce que c'est pas cher, c'est amorti, etc. Et on n'en construit pas d'autres. Et il y a un scénario qui en construit d'autres, etc. Enfin, c'est tout développé. Ce qu'on notera, c'est que les 3 scénarios il y en a 2 donc qui construisent pas de nouvelles centrales, 3 qui construisent des nouvelles centrales. Ça va très très loin. Ils font de la propagande. RTE, faut prendre pour ce qu'il est. Ils font vraiment de la propagande de l'EPR, notamment de cette fameuse nouvelle génération, et des SMR, des petits réacteurs. On sent que c'est dicté pour faire plaisir à Macron, à tous les autres, à Le Pen, tous ces gens qui défendent le nucléaire contre vents et marées. Non, on parle pas de marée, à aucun moment il parle de marée d'ailleurs dans les rapports RTE, parce qu'on peut utiliser l'énergie de la marée comme le fait la centrale, il y a une centrale marémotrice en France. Voilà, et ils insistent beaucoup sur le coût élevé d'un scénario 100% renouvelable. Et c'est pour ça que tout le monde le met de côté. Regardez, ça va coûter plus cher l'énergie. Ce qui est pas une aberration que ça coûte plus cher, c'est pas illogique que ça coûte plus cher, mais on va voir qu'en fait, c'est pas un problème que ça coûte plus cher. Et je parle pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent. Pour les riches, on s'en fout. Mais voilà. Non. Donc voilà. Donc, RTE oublie exprès, hein, c'est toutes les mesures qu'on peut prendre pour gagner en sobriété, pour gagner en économie, pour améliorer pour faire des améliorations technologiques qui entraînent une baisse de la consommation. Ça, ils ne veulent pas en entendre parler. Ce sont des gens qui défendent la croissance. Ils sont productivistes, en plus d'être nucléophiles. Donc ils défendent cette idée-là. Cette idée qui est aberrante, hein, on rappelle, la croissance ne peut exister dans un monde fini aux ressources finies. Et pourtant, ils en sont encore là, les ingénieurs de RTE, à défendre la croissance infinie, illimitée, dans un monde dont les ressources, elles, sont ultra limitées. Alors, ça a été repris par beaucoup de journaux, quasiment tous, et quelques jours après est sorti un truc bien plus intéressant, issu du réseau Negawatt. Negawatt, c'est dans l'idée que le meilleur moyen de gagner sur l'énergie et sur les gaz à effet de serre notamment, c'est de ne pas consommer des mégawatts. Donc ils ont appelé ça des Negawatt. Donc c'est un groupe qui existe depuis très longtemps, hein, qui sort un rapport assez régulièrement, qui en met à jour. Et là, il y a le nouveau rapport qui sort avec la même échéance, 2050. Mais alors là, on diffère totalement. Eux, ils n'ont qu'un seul scénario. Ils expliquent comment faut faire pour avoir une France sans énergie fossile et sans nucléaire. Voilà. Donc ils expliquent, hein, il faut fermer les 56 réacteurs actuellement, ne pas jamais dépasser la durée de 50 ans, et pour certains, ne pas dépasser la durée de 40 ans de fonctionnement, hein, pour aussi des questions de risque, hein, on parle de ça. RTE refuse d'aborder non plus la question du risque, des déchets, des choses comme ça, c'est fait. Ouais, c'est un rapport ultra-orienté, RTE. Donc voilà. Alors le rapport Negawatt, je vous laisse aller sur le site de Negawatt, hein, c'est détaillé, il y a des graphiques. Voilà, moi ça fait des années que je suis et que j'étudie les rapports de Negawatt. C'est vraiment très très bien fait. Ils partent du principe qu'ils divisent par deux la consommation d'électricité. Alors vous allez me dire, c'est bizarre, on est dans un monde où on multiplie, on est en train de développer le truc imbécile là, qu'est la voiture électrique. Oui, mais eux ils expliquent comment sortir de comment diviser par deux. Alors il y a des choses très simples. Il faut remettre en cause les modes de transport, donc de développer ce qu'on disait, le train là, mais en fait globalement les transports collectifs et réduire les transports individuels, hein, quand vous avez une personne dans une voiture, vous avez une voiture qui fait 1400 kilos et une personne qui fait 70 kilos, vous avez compris que le gaspillage il est énorme, hein, plus de 90% de l'énergie sert à rien, est gaspillé. Donc voilà, c'est contre ça qu'il faut faire. Il faut changer de modèle agricole, parce que l'agriculture a un impact important, hein, sur les dérèglements climatiques, sortir notamment des engrais chimiques qui consomment énormément de pétrole et d'énergie fossile globalement, travailler sur l'isolation des bâtiments, etc. Et avec tout ça, on divise par deux la consommation d'énergie. Du coup, le prix peut être multiplié par deux, puisque pour les ménages, ça ne change rien. Voilà. Alors c'est une caricature, hein, ce que je dis, multiplié par deux, divisé par deux. Mais c'est pour dire que le prix, c'est pas forcément le plus important si, à côté, il y a une politique d'économie. Hein. Alors, ils détaillent aussi ce qu'ils veulent faire sur les... Alors, pareil, hein, on ferme les lignes d'avion dans lesquelles il y a en parallèle une ligne de train, etc. Donc le rapport, il a été quasiment pas repris par les gros médias, un ou deux en ont parlé, et pourtant, il est largement plus documenté et mieux fait que le rapport de RTE. Alors, vous allez me dire, il est aussi idéologique. Bah oui, l'idéologie de RTE, c'est de défendre le nucléaire, de défendre la croissance infinie. Le rapport de Negawatt, il veut défendre plus de nucléaire, plus de pollution en fait, hein, de sortir du tout pollution. Donc c'est deux orientations idéologiques différentes avec des propositions importantes dans les deux. Et voilà, et tous les candidats quasiment ont repris, sauf Mélenchon et je crois qu'il y en a peut-être le candidat écolo, ont repris les idées de Negawatt. Tous les autres, hein, du centre à la droite à l'extrême droite, ont parlé de RTE et ils veulent développer le nucléaire. Donc voilà. Et dans ma série où je lisais des trucs sur cherchais les journaux qui avaient parlé du rapport de RTE et du rapport de Negawatt, je me suis tapé l'Humanité. Ça fait longtemps, j'ai un peu du mal avec ce journal. Mais voilà, il y a des choses intéressantes sur le social dans ce journal. Alors sur l'écologie, c'est souvent super limite, mais alors là, on est tombé dans la catastrophe absolue. Aujourd'hui, l'Humanité, Donc on rappelle, journal proche des communistes, c'est pas le journal du Parti communiste, mais c'est un journal proche. Ils ont le même problématique que les communistes, c'est-à-dire ils sont toujours productivistes, pro-croissance, on est dans la même idéologie que RTE. D'ailleurs, le journal ne parle pas du rapport Négawatt, le journal parle essentiellement du rapport RTE. Et j'ai lu alors deux articles aujourd'hui, mais je me suis arrêté parce qu'après j'avais envie de sortir et de brûler tous les exemplaires de l'humanité, ce qui est pas bien. Il y avait, on ne sort pas du nucléaire comme on sort de sa douche. Hein, voilà. Conclusion, on peut pas arrêter. Pourtant, même le RTE dit qu'on peut en sortir en fait en 20 ans. Hein, et je rappelle que, voilà. Et le deuxième, Allemagne, la cruelle imposture du tournant énergétique. Alors, les articles qui prennent l'Allemagne en référence en disant, regardez, ils polluent beaucoup, alors que ils consomment de moins en moins de charbon, ils consomment de moins en moins de gaz, tout baisse, hein, en Allemagne. Mais ça, non, ils en prennent pas compte. Il y a une propagande, une déformation, une contre-information sur l'Allemagne qui est assez impressionnante, en fait. Et donc, j'ai lu le premier article, j'ai commencé par celui-là. Alors, il parle de RTE et il parle quasiment pas du scénario 1 sans nucléaire. Ils se disent, ça va augmenter les prix, donc c'est pas bien. Après, ils ont la défense du, c'est le consommateur, c'est les pauvres qui vont morfler. Ils ont pas compris qu'on pouvait faire des économies, hein. Ils veulent pas comprendre. Ils ont compris, mais ils veulent pas le mettre en avant parce que ça desservirait leur idéologie, productiviste et pro-croissance, quoi. Donc voilà, on a donc des articles qui sont, remplis d'erreurs. Ils reprennent les erreurs ou les mensonges de RTE dans les deux articles, hein, là, ils refusent de parler. Alors par exemple, ils disent tous, le nucléaire actuel, c'est un impact très faible en termes de réchauffement climatique. Alors on rappelle que c'est pas tout à fait vrai, que les chiffres sont pas connus et que personne n'est capable de donner l'impact réel du nucléaire, parce qu'on a les gaz qui refroidissent, qui ont un énorme impact en CO2 et dont on parle pas. On a la gestion des déchets sur 100 000 ans. Aujourd'hui, les déchets hautement radioactifs à durée longue, de vie longue, sont fondus dans du verre. Le verre est garanti 150 ans. Ça, on va le mettre, l'éloigner de nous pendant 100 000 ans. Donc c'est garanti 150 ans. Au bout de 300 ans, ça se met à fuir. Parce que si c'est garanti 150 ans, ça va pas durer non plus. Qu'est-ce qui se passe? Il faut réintervenir. Donc refaire venir des anciens chantiers, donc recreuser, donc etc., etc. Et en fait, aujourd'hui, tout le monde refuse de calculer l'impact réel de la gestion du nucléaire. L'impact réel au niveau des mines, parce qu'on s'en fout, c'est chez les pauvres. On rappelle, 100% de l'uranium est importé. Et encore plus sur les déchets, où personne n'est capable ou n'a envie de calculer l'impact des déchets radioactifs. On rappelle, 100 000 ans. Hein, 100 000 ans. On lègue à nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, la merde pour avoir de l'électricité aujourd'hui. Donc l'UMA défend tout ça, défend le PR, défend toutes ces choses-là. On a vraiment des articles qui sont incroyablement orientés, qui sont pas nouveaux. Hein, les communistes et l'humanité ont toujours été dans cette idéologie-là. Mais et c'est là, moi je trouve qui est triste et qui est dangereux. D'ailleurs, M. Roussel a le même discours, hein, le candidat du Parti communiste. C'est que, ils font le jeu des autres en faisant ça. Parce que qui sont les nucléophiles qui défendent le nucléaire? C'est Macron, c'est Le Pen, c'est les gens de LR, c'est tout ça. Et du coup, l'humanité sert la soupe à ces gens-là. Et ça, moi, je trouve ça triste. Hein. Voilà, pour parler poliment, parce que je pense largement pire. Et puis, je vais juste terminer avec... tu parlais de la COP26, donc à Glasgow, et Macron est allé mentir, hein, comme tous. Je voulais juste rappeler ce qui est en train de se négocier au niveau de l'Europe, au niveau taxonomie verte. La taxonomie, c'est de définir quelle énergie va être considérée comme meilleure pour le climat et d'autres moins bonnes. Il y a des négociations en sous-main en ce moment entre la Pologne, la Hongrie, la Tchéquie et la France. La France veut faire reconnaître le nucléaire, avec tout le discours qu'on a là dans l'UMA et chez tous les autres, en disant le nucléaire, regardez, c'est bien en termes de CO2. Donc c'est génial, parce que le reste on s'en fout, c'est génial. Et le problème c'est que ça, la France est toute seule à essayer de vendre ça. Hein. La France est très isolée là-dessus. Mais la Pologne, la Hongrie, la Tchéquie veulent que le gaz naturel soit aussi reconnu comme un carburant bon pour la planète. on rappelle, le gaz naturel. La combustion est certes quasi parfaite, c'est-à-dire qu'on n'émet que du CO2, mais on émet du CO2 et de la vapeur d'eau, mais du CO2. Le CO2, c'est ce qui réchauffe la planète, justement, ou ce qui dérègle. Donc, il y a des tractations, il y aurait un accord secret. Alors, c'est pas un truc secret, hein, c'est que ça sort petit à petit. Donc, la France est en train de négocier, donc avec la Pologne, la Hongrie, la Tchéquie, pour que le nucléaire et le gaz soient inscrits dans les énergies vertes, quasi dans la taxonomie verte des énergies. Donc on a ce discours. Macron, il arrive à la COP26. Par derrière, il négocie ce truc-là pour faire passer deux énergies qui sont tout sauf respectueuses de l'environnement. Hein, si vous avez jamais vu ce qui se passe autour d'une mine d'uranium, vous allez voir que ça détruit l'environnement des gens qui habitent autour. Hein. Et ben, il arrive ça, il fait son discours qu'il faut faire des choses, et par derrière, il est en train de négocier l'inverse. Alors, il n'a pas le monopole du mensonge. Ils y sont tous allés avec des mensonges. Donc, mais c'est juste que, d'abord, ça nous concerne parce que nous, on vit sous lui, là. Hein. C'est lui qui prend les décisions à notre place. Et c'est encore plus énervant parce que c'est la France en Europe qui défend le nucléaire. S'il n'y avait pas la France, il n'y aurait pas cette volonté de faire croire que le nucléaire, c'est la solution géniale pour l'environnement. Donc voilà ce que je voulais dire. Juste pour refaire le point, la COP26 s'est ouverte. La pandémie avait eu un aspect positif, hein, 5,4% d'émissions de CO2 en moins en 2020. Et ben ça y est, on est déjà repassé à plus 4,9, donc on a quasi rattrapé notre rythme de destruction de la planète.
Alors on va parler de la chasse, une autre destruction de la planète.
C'est bien la chasse.
Hier, l'association AVA, Abolition la Vénerie aujourd'hui, est allée devant le tribunal administratif d'Amiens pour contester la décision du maire de Plessis-Brion. Plessis-Brion, c'est dans l'Oise, à côté de Compiègne, à peu près. Cherchez un peu, faites un effort avec l'Oise et Compiègne quand même. Alors, Jean-Pierre Damien, ce fameux maire de Plessis-Brion, a pris un arrêté municipal le 26 octobre dernier pour interdire la contrefaite organisée par AVA. Une contrefaite organisée contre une chasse à cours organisée à côté du château appartenant à la maîtresse d'équipage de Rivecourt pour lutter contre ce rassemblement des veneurs le jour de la Saint-Hubert. Donc c'est une tradition pour l'association AVA de vouloir se mobiliser contre cette chasse à cours. Et le maire a décidé qu'il y aurait des risques de troubles de voisinage et qu'aucune autorisation ne sera donc donnée pour ce rassemblement d'une manifestation qui doit normalement avoir lieu ce week-end, le 6 novembre, précisément à 10h sur le parking de Tréhant, au Beaumont de Compiègne, si tu veux y aller. Voilà pour les informations, sinon tu vas sur Abolition la Vénerie aujourd'hui. Alors, la chasse à course est un problème en France, puisque ce n'est toujours pas interdit et que ce n'est même pas dans le projet de loi contre la maltraitance animale, hein.
Rien, pourtant, ça en est.
Rien. Pourtant, a priori, d'après les petits sondages qui des fois servent à rien, semblerait quand même que dans notre beau pays, les joueurs pas trop pour la chasse à cours, d'autant plus que pour le coup c'est un truc de riche. Voilà, donc bon, pas très concerné, donc on veut bien l'enlever, hein. Alors on a un peu des chiffres, hein, depuis quelques jours sur le nombre d'accidents, certains mortels dans le cadre de la chasse. C'est l'Office français de la biodiversité, hein, qui nous fait des petits tableaux. Donc ce qu'on peut dire, c'est que depuis, alors vous savez, les saisons, c'est pas en année civile, hein, c'est en année décalée, en saison décalée. Donc depuis 99-2000 à la saison 2020-2021, en sachant que sur les dernières saisons, la dernière saison, on n'a pas les chiffres complets encore, tout ça n'a pas été encore transmis, mais on est à plus de 400 personnes tuées. Il faut savoir que tous les ans, il y a entre 200 et 130 accidents à peu près, dont un certain nombre donc sont mortels. Vous l'aurez compris, alors il paraît que les chiffres sont en baisse. Alors ça, je veux dire, dans la presse de droite, on a eu le droit à un joyeux festival de regarder, ça baisse de 41%.
Le responsable des machins de chasseurs, là, ils sont quand même assez forts, ils arrivent à justifier. Alors, un mec qui passait en voiture.
Je vais finir, s'il te plaît, tu vas arrêter de raconter tout mon sujet. Merci beaucoup, je te le dis. Alors, il y a donc à Vallières-sur-Fière, en Haute-Savoie, un chasseur qui a été, qui a grièvement blessé, le jeudi 28 octobre, un homme qui se promenait. Heureusement, hein, le pronostic vital n'est plus engagé. C'est le plus qui est important quand même dans cette affaire aussi. Donc le chasseur, lui, était dans un groupe qui traquait le sanglier. Et puis on a un automobiliste blessé par balle près de Rennes. Là, le chasseur est mis donc en examen. C'est un homme de 67 ans qui s'est pris une balle dans le cou. Il était dans sa voiture, heureusement, il n'était pas seul, il y avait un passager qui a pu tenir le volant et garer la voiture hein, sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est pas mal hein, sur une 4 voies quand même. Donc, chasseur placé en garde à vue, et mis en examen pour blessure involontaire lors d'une action de chasse, au cours de laquelle il aurait délibérément violé une obligation de sécurité ou de prudence. Donc, ça fait causer ces derniers temps de retour ces accidents de chasse. Je vais venir hein, sur le vilain dont tu as envie de parler. Alors, ce qui a fait aussi causer le vilain dont nous allons reparler ensemble tout à l'heure, c'est la proposition du candidat à la présidentielle, monsieur Yannick Jadot, qui, au micro de BFM TV et RMC, a déclaré « J'interdirai la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires, je veux qu'on puisse se balader dans la nature. » Et après, il nous a fait des grandes envolées sur le plaisir de la nature, tout ça, ça sent bon, les arbres c'est magnifique, et pourquoi il faudrait pouvoir se balader tranquillement. Évidemment, étant donné qu'on a quand même des chasseurs, je vais continuer à rendre le truc masculin, parce que les femmes dans la chasse, elles représentent 2% des chasseurs, donc vous m'excusez.
Ils en ont beaucoup mis une en avant. Là.
Oui, ils essayent de rendre sexy,
manipulable, manipuler
la chasse pour attirer à la fois les jeunes, les urbains, et puis aussi les femmes. Bon, on va vous le dire une fois pour toutes, nous, le sexy, les femmes, vous voyez, bon, comment te dire. Alors, donc, mais voilà, c'est un électorat sensible, hein, les chasseurs. On connaît Xavier Bertrand et ses positions pro-chasse, qui s'en prennent toujours, évidemment, aux écolos et aux environnementalistes pour dire, vous êtes des vilains qui voulaient nous faire fermer. Marine Le Pen est à peu près sur le même discours. Elle s'en est pris donc à Yannick Jadot pour dire qu'il était déconnecté de la réalité, hein, puisque Marine Le Pen est revenue sur un truc qui est utilisé par les chasseurs, la fédération et par un certain nombre de politiques pour dire que les chasseurs c'est des gens qui travaillent, donc si jamais ces chasseurs ne peuvent plus aller chasser le dimanche, qu'est-ce qui va se passer, hein, et ben autant arrêter la chasse.
C'est ça qu'on veut dire en fait.
Comment te dire. voilà donc même François Hollande hein, trouve que Yannick Jadot a des idées bizarres, hein, je le cite pour le mot bizarre. Et puis Barbara Pompili a été interrogée sur France Info, hein, je vous rappelle que c'est la ministre de la transition écologique et en charge de la question gouvernement. Alors elle dit qu'elle veut bien ouvrir le débat, mais
qu'elle est pour la chasse,
mais que la majorité n'a pas de volonté, je cite, d'interdire la chasse d'une manière ou d'une autre, mais de réguler la chasse. Alors du côté des Verts, en fait, elle n'a pas tort, hein, Barbara Pompili, puisqu'elle connaît bien élever les Verts. C'est un vieux sujet, la chasse qui traverse le parti. Certains voudraient carrément l'interdire, certaines peut-être un peu moins, en tout cas réguler est un mot qui revient beaucoup. On entend aussi parler de cette journée de chasse. Rappelons-le qu'il y avait à un moment une journée d'interdiction, et qui c'est qui l'a remis ? Roselyne Bachelot, si à l'époque, c'était en 2003. Et ben ouais, Roselyne, elle a refait ça, donc elle avait supprimé au niveau national donc cette interdiction de chasse le mercredi. Un certain nombre de territoires quand même ont maintenu cette interdiction. Et puis donc ce président de la Fédération des chasses que tu as bien écouté, hein, Willy Schraen, j'arrive jamais à le dire, estimait effectivement que le risque zéro n'existait pas, et que des accidents dramatiques, ça excuse. Ça arrive, hein. Il s'en excuse, hein. C'est comme ça. Alors évidemment, il était sur de radio. On comprend que sur ce genre de médias, il puisse déblatérer ses conneries. Et puis, effectivement, il a expliqué sur l'accident survenu près de Rennes que quand même la trajectoire de la balle, elle avait ricoché.
Ouais, c'est ça. Il est énorme. Hein,
ça avait traversé des ex et que la balle n'avait pas été retrouvée et qu'il espère que c'est bien la balle du chasseur.
Laissant entendre qu'en fait c'est peut-être pas la balle du chasseur.
Et que même, il a été soutenu par André Douard, le président de la Fédération des chasseurs d'Ille-et-Vilaine, qui s'est interrogé comment ça a pu se faire. Je ne veux pas justifier le tir du chasseur, j'essaye de comprendre. Donc le mec en fait il roulait et tout seul il s'est mis une petite baballe.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Bon, en tout cas, Willy a donc qualifié de débile les propositions de Yannick Jadot, hein, voilà, parce que Willy c'est quelqu'un de franc dont on parlait, surtout quand il est sur Sud Radio. Et puis il avait exprimé déjà il y a quelques temps sa colère, son amertume et son dégoût quand il a appris que la chasse à la glu avait été retoquée encore une fois par le Conseil d'État. On rappelle, le Conseil d'État retoque. Qu'est-ce que fait le gouvernement ?
Il refait une nouvelle loi.
Hop, et le Conseil d'État a retoqué. Alors, le Conseil d'État ne dit pas un truc sur le fond, que c'est mal. Il dit juste que ça contrevient et que ça va à l'encontre de dispositions de l'Union européenne.
En termes de maltraitance, c'est quand même c'est atroce ce genre de chasse.
Alors, donc le Conseil d'État a déclaré des techniques donc, de chasse traditionnelles illégales. Elles sont nombreuses, ces techniques de chasse traditionnelles. C'est la glu, c'est la petite cage qui tombe sur l'oiseau. Le plaisir de la chasse, là, du coup, toi, parce que bon, il y a le fusil déjà, c'est une chose de tenir une arme. Plaisir, nous on comprend pas trop, mais il y en a qui s'expliquent que c'est hachement bien parce que tu as dans le bout de ton viseur l'animal que tu vas tuer. Mais alors par contre là, la glu, alors là c'est quand même un truc, je veux dire, putain, faut être quand même un vieux pervers de merde, pardon, excusez-moi,
non, comment tu...
mais pour quand même oser faire ce genre de truc. En tout cas, il faut se rappeler que c'est One Voice et puis la Ligue pour la protection des oiseaux qui monte toujours au créneau, la LPO qui était revenue auprès du Conseil d'État pour faire encore une fois retoquer l'affaire. Donc c'est plutôt une bonne chose. Mais bon, il y a quand même pas mal de gens qui rappellent que la mort des oiseaux, ça peut pas être un loisir. C'est ce que dit Yannick Jadot, par exemple. Que la chasse à courre, le déterrage, c'est des pratiques d'un autre temps, c'est de la torture. Que il y a quand même un petit problème, c'est que tout ce plomb. Bah, tu aimes bien, du coup, la glu, c'est mieux, c'est plus écolo. Tout ce plomb dans la nature.
Bah, la colle, la glu, je ne sais pas si c'est écolo, leur truc.
Non, mais bon, comme ils sont moins nombreux, si tu veux. Ouais. Du coup, voilà, mais c'est quand même 8000 tonnes de plomb dans la nature. Chaque année, c'est énorme en termes de pollution des sols. Et puis, aujourd'hui, on fait quand même de l'élevage pour la chasse, c'est-à-dire qu'on fait des petits élevages, et puis on te les met dans des enclos, et puis tu vas le chasser, c'est vachement classe. C'est comme à Disneyland, mais
Mais tu tues l'animal.
Voilà.
Vaut mieux faire des câlins à Mickey.
Voilà, la chasse fait partie des débats qui pourraient aussi être intéressants.
En fait, cette présidentielle, elle ressemble aux autres. On a les mêmes débats chaque fois.
Ouais, mais celui-là, on l'aime bien, nous.
Celui-là, on l'aime bien.
Alors, si vous aimez les animaux, on peut vous envoyer au cinéma. Alors, ça dépend si vous les aimez dans votre assiette ou en d'animal de compagnie. Si déjà ça vous fait pas rire, ma blague, et qu'il n'en est pas vraiment une, n'allez pas voir Barbac.
Non.
Si vous voulez, il y a un moment, même si vous êtes végétarien, vegan, il y a un moment, c'est comme les anarchistes et les syndicalistes qui n'ont pas d'humour, faut pas les fréquenter. Nous avons un film, Barbac, de Fabrice Eboué, qui est sorti donc au cinéma, comédie romantique, avec un brin de petite violence dedans, avec Marina Foïs et Fabrice Eboué qui incarne un couple
de boucher,
les Pascal, boucher qui s'ennuie dans leur vie de couple, dans leur vie de boucher, il faut bien le dire aussi, et qui, après avoir été attaqué par des véganes, qui leur ont jeté du faux sang, du sang, on s'en fout, sur leur vitrine, sur eux-mêmes et tout, stupéfaits, se disent que se faire du vegan, c'est pas si mal. Et bon, il y a un petit truc qui fait qu'à un moment, ils se retrouvent à bouffer du vegan, et qui s'avère que le vegan, c'est une viande persillée.
Oui, parce que le vegan mange. Des légumes. Il mange des bons légumes. Donc, du coup, il est très bon à manger.
Voilà. Alors, bon, le film s'essouffle un peu, il faut bien le dire. Reste qu'il y a quand même quelques trucs assez drôles. Évidemment, encore une fois, il faut avoir de l'humour, surtout si vous êtes militant, sinon ça va pas du tout vous plaire, un film comme ça.
C'est quand même super drôle.
Voilà. Bon, que vous dire. Et puis surtout, parce qu'il me reste longtemps, le film quand même à voir, c'est ce film Pig avec Nicolas Cage. Une réussite admirable pour ce comédien qu'on a vu faire des tonnes de trucs tout pourris.
Ouais, je pense qu'il a le record des films de merde.
Non. Si. Il n'a pas le record.
Je pense qu'il est.
Je ne sais pas si Charles Manson peut-être un peu plus.
Il en a fait quand même.
Mais en tout cas, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a fait autant de petites pépites et des merveilles que autant de films absolument tout pourris qui étaient c'est directement en version cassette à l'époque. Maintenant directement
en VOD.
En VOD. On a un film étonnant à la fois par sa construction. C'est un jeune réalisateur qui s'appelle Michael Sarnowski. C'est bien parce que c'est lui qui est aussi sur le scénario. Donc là, on a un film assez original quand même. Robin vit en ermite dans sa cabane, dans sa forêt. Il a une truffière.
Ouais, une truie truffière.
Donc il ramasse. Ouais. Et un jour, cette truie truffière est enlevée. Et il part à sa recherche. Il est accompagné dans sa recherche par Amir, qui est un jeune branché qui habite la ville et qui vient récupérer sa petite collecte de truffes.
Et qui fait du business.
Qui fait du business, bien évidemment, et qui va à la ville. Voilà. Et donc, on a ce Nicolas Cage qui va sortir de son bois de l'Oregon pour aller à Portland, à la ville. Et c'est un retour, puisque, en fait, on ne connaît pas bien
sa vie.
Son histoire, on ne sait pas. Et on la découvre au fur et à mesure.
Il a une belle vie. Il a eu une plus plusieurs.
On va pas tout raconter.
Il a fait des choses incroyables en termes de bouffe.
En tout cas, on découvre des choses. Ouais. On sent qu'il y a quelqu'un qui aime évidemment la cuisine, parce que ce film nous parle non pas de cette truie, parce que finalement.
Bah si, parce qu'il est quand même, c'est son animal de compagnie.
Oui, mais finalement,
il tient,
en fait,
il l'aime.
C'est son histoire à lui. Oui. Moi, c'est ça que j'y vois. Cet homme qui est sorti d'un cadre de confort, de respectabilité, de reconnaissance surtout,
et qui a rejeté le système du coup,
et qui se retrouve pour des raisons personnelles à l'écart par un choix personnel, encore une fois. Michael Sarnowski, déjà, il filme extrêmement bien. On a ces couleurs du bois, marron, ce vert, le brouillard, tous ces éléments qui vont accompagner ce personnage de Rob. Et puis ensuite, il y a la nuit, il y a la ville, dans lequel aussi on a les bas-fonds, les à côté de la restauration. Et puis une scène absolument magnifique, avec un second rôle absolument fantastique de ces restaurateurs, pris à son propre jeu de la starification et surtout de cette nouvelle cuisine
branchouille
qui se perd finalement, qui n'a plus rien à proposer en termes de qualité, en termes de valeur gustative. Et Michael Sarnowski nous propose donc un film d'abord qui commence comme un film de vengeance et va passer en un drame autour de cet homme.
Et avec des propos très politiques quand même, de rejet du système.
Ouais. Ouais. Et puis, à quoi elle sert cette ville? Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qui y vit? Qui y vit? Et dans quel cadre? Donc, c'est vraiment un chouette film, nous, qu'on a beaucoup apprécié. Alex Wolff, qui joue Amir, est aussi très bien dans le rôle de ce jeune. Un peu décalé, qui essaye de faire face à justement sa situation de classe, puisqu'il c'est un enfant de riche. C'est un beau film, Pig, qu'on vous recommande vraiment, avec Nicolas Cage, qui nous fait un magnifique retour dans ce personnage taiseux, tout en intérieur. Si vous acceptez de voir un homme cradingue qui boursouflure à cause de prendre des
coups, il parle presque pas, hein,
tout au long de ce film. Mais ça nous montre aussi une ville underground, quelque chose de différent aussi, sur les États-Unis d'Amérique, et c'est un chouette film que je vous recommande.
Voilà, deux films sur les animaux avec une version un peu différente.
Voilà, choisissez.
Comédie ou pas comédie.
Si, ça dépend si
on les mange ou on
les
mange pas.
Un animal ou pas. Allez, je vais terminer très très vite pour dire que on va avoir sur les pentes de la Croix-Rousse des dimanches solidaires en soutien aux migrants du jardin de la Grande Côte. Ça sera les dimanches 7, 14 et 28 novembre. Ça se passe donc jardin de la Grande Côte, hein, c'est au milieu des pentes de la Croix-Rousse. Si, voilà, c'est facile à trouver. Il va y avoir des concerts, donc par exemple ce dimanche 7 novembre, on aura Boy Espoir de Caloum, Éric Le Rouge. C'est entre 15h et 17h. L'idée, c'est évidemment de venir, d'être solidaire, de discuter. Si vous savez pas ce qui se passe, c'est le moment de rencontrer des gens et de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Voilà, quand aujourd'hui on voit qu'il y a encore des disparus, des morts et des gens secourus en mer, que c'est quotidien, qu'il y a des gens qui essayent de sauver leur peau et que d'autres prétendent qu'il faut les renvoyer chez eux, quitte à les remettre dans les mêmes bateaux par lesquels ils sont venus et dans lesquels ils ont réussi à survivre. On a besoin de se mobiliser encore et toujours sur ce soutien aux migrants et aux migrantes. Ici, effectivement, on a de jeunes hommes qui sont à la rue depuis un petit moment. Voilà, donc ça sera les 7, 14 et 28 novembre au Jardin de la Grande Côte, donc sur les pentes de la Croix-Rousse. Je vais très vite parce qu'il me reste 4 minutes. C'est pas ça?
Si, si, 3.
Ah. 3. Merde. Alors, je vais terminer avec une entreprise qui se fait taper sur les doigts, parce qu'on est toujours content quand ça arrive. C'est la CNIL qui a tapé sur les doigts de la RATP. La RATP, c'est une entreprise qui se fait taper sur les doigts et qui lui a mis une amende de 400 000 euros. Pas tellement, mais c'est déjà ça de prix. Il faut dire que la CNIL, dans plusieurs centres de bus d'Île-de-France, avait décompté le nombre de jours de grève des agents dans un fichier qui était utilisé pour le choix des promotions.
Donc un fichier illégal.
Ouais. Alors, c'était... Donc la CNIL estime que le jour du nombre d'absences aurait suffi, peut-être, hein, si jamais l'absence était prise en compte pour les promotions de ces agents au sein de la RATP, mais que le motif de l'absence n'avait pas été indiqué, surtout quand il s'agit d'exercer son droit de grève, que là quand même c'est vachement pas bien. Alors c'est la CGT qui avait saisi la CNIL en mai 2020. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aurait donc quatre centres hein, ont été visés. A priori, il y en aurait deux autres qui seraient aussi pas très propres, mais les autres n'ont pas été forcément contrôlés. Donc c'est parce que la CGT a pointé des lieux que ces lieux sont ressortis. Ce qu'on peut se dire, c'est peut-être que tous les centres de la RATP d'Île-de-France vont être nettoyés puisque la RATP a reconnu le caractère illicite de ces fichiers, c'est déjà bien de le reconnaître, et a fait valoir qu'une telle pratique était contraire à sa politique générale. Ça nous fait bien marrer, on espère bien que ça va pas se reproduire. Ce qui était en plus dingue, c'était que les fichiers d'évaluation des agents étaient concernés pendant plus de 3 ans après la commission d'avancement. Ça, oui. C'est-à-dire qu'en fait, eh ben, ça te poursuivait longtemps, hein, tes grèves, ton syndicalisme. Donc c'était quand même un principe de viser des agents, des salariés actifs et actives. Voilà, ça fait toujours du bien quand une entreprise se fait taper sur les doigts. Alors la CGT, elle a également porté l'affaire au pénal, il y a une procédure en cours. Maintenant, la CGT espère aussi passer aux réparations pour les agents qui ont été concernés et qui auraient pu subir donc des discriminations à la suite de ces fichiers, des petites indications de « Ah là là, c'est un gréviste !» Voilà. On termine même un petit peu en avance, hein, dis donc. Hein.
Ouais, ça dépend de quelle
horloge
tu regardes.
On va vous laisser ce soir avec la petite cuillère qui va prendre la suite. Nous, on vous retrouve la semaine prochaine. On sera le 11 novembre. On espère vous parler antimilitarisme et la guerre, c'est naze. Ciao.
Voilà, bye bye.